En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Poursuivant sa réflexion durant l'année 2006 sur la justice, l'Académie des sciences morales et politiques a entendu le 30 octobre 2006 Madame Muriel Aiglin sur la justice pénale des mineurs. Muriel Aiglin est vice-présidente du tribunal de grande instance de Bobigny, l'un des premiers de France, dans le département de Seine-Saint-Denis. Elle y exerce également des fonctions de juge pour enfants. Elle est par ailleurs secrétaire générale des magistrats chargés de la jeunesse et de la famille. Et comme spécialiste, elle assure des cours sur les questions du droit de la famille et du droit des enfants. Elle a intitulé sa communication devant les académiciens réunis en séance « La justice pénale des mineurs, quelle adaptation pour notre temps ?»
C'est un grand honneur pour moi de venir présenter devant votre illustre assemblée une réflexion sur une question qui me tient particulièrement à cœur, qui est la justice des mineurs. Alors, les enfants peuvent être amenés à rencontrer l'institution judiciaire sous diverses formes. Cela peut être le juge d'affaires familiales lorsque leurs parents divorcent. Cela peut aussi être le juge des tutelles en cas de décès de leurs parents. Mais ce qu'on appelle la justice des mineurs recouvre en réalité la protection de l'enfance en danger et les réponses apportées à l'enfance délinquante. En effet, le juge des enfants exerce une double juridiction, à la fois civile et pénale, qui amène en réalité à considérer l'enfant dans sa personne et non pas uniquement au travers des actes qu'il a commis ou qu'il a subis. Compte tenu du temps qui m'est imparti et de l'actualité récente, puisque j'ai bien compris que les sujets d'actualité mettaient la justice des mineurs sur le devant de la scène, j'ai choisi de centrer mon propos uniquement sur la justice pénale des mineurs, qui représente en gros la moitié de l'activité des juges des enfants. Aussi ai-je intitulé mon exposé « Justice pénale des mineurs, quelle adaptation à notre temps ?» ce qui pose la problématique d'aujourd'hui. Et je voudrais débuter mon intervention par une citation. La voici. « Quoi qu'il en soit, le problème de l'enfance coupable demeure l'un des problèmes les plus douloureux de leur présente. Les statistiques les plus sûres, comme les observations les plus faciles, prouvent d'une part que la criminalité juvénile s'accroît dans des proportions les plus inquiétantes, et d'autre part, que l'âge moyen de la criminalité s'abaisse selon une courbe très rapide. Ce texte, qui semble d'actualité, est pourtant tiré du traité de droit pénal d'Émile Garçon, que, Monsieur le Président, vous avez mentionné tout à l'heure, traité qui date de 1922. Il est aujourd'hui peu de sujets qui soient plus brûlants que celui de la justice pénale des mineurs. Elle était l'un des thèmes principaux de la campagne présidentielle de 2002 et a récemment été réformée à trois reprises, en 2002, en 2004 et en 2005. Depuis la crise des banlieues de novembre 2005, elle est présentée comme responsable d'une partie des maux actuels. Pour ma part, voir la justice des mineurs au cœur du débat public est une chance, parce qu'elle est intimement liée à l'état de notre société et à notre conception de l'enfance et de la justice. Ce débat n'est malheureusement pas toujours suffisamment détaché de préoccupations électorales. Dans ce cas, il est souvent réduit à une cristallisation des oppositions entre les tenants de l'éducation d'une part et les tenants de la répression d'autre part, opposition à laquelle je vais tenter d'échapper. La justice des mineurs telle que nous la connaissons aujourd'hui est officiellement née en 1945, mais elle est précédée d'une longue évolution qui remonte au XIXe siècle. La distinction initiale entre enfance coupable et jeune victime s'est progressivement estompée dès la fin du XIXe au profit d'une approche globale de l'enfance en difficulté. L'ordonnance de 1945, promulguée par le général de Gaulle, est une consécration d'un modèle protectionnel de justice. Le modèle protectionnel veut qu'entre la société, la victime et le coupable, c'est vers ce dernier que l'attention est portée. Le préambule de cette ordonnance affirme ainsi que la France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. Et l'un des premiers juges des enfants, Jean Chazal, dont Monsieur le Président a parlé tout à l'heure, se plaisait à affirmer que lorsqu'un enfant vole une bicyclette, c'est à l'enfant qu'il s'intéresse. Et ces juges de 1945 Voilà. Quand on disait tout à l'heure que les médias s'étaient peu intéressés à la justice des mineurs, c'est vrai que l'ouvrage de Gilbert Cesbron et le film qui en a été tiré avec Jean Gabin donnent une image de ce que pouvait être la justice des mineurs en 1945. Et ces juges de 1945, comme on le voit dans Chien perdu sans collier, ont rapidement constaté qu'il eût fallu prendre en compte bien plus tôt les difficultés familiales lourdes que connaissaient nombre de mineurs délinquants. C'est dans cet objectif que fut adoptée une ordonnance de 1958 qui donne compétence aux juges des enfants pour prendre des mesures civiles de protection pour les mineurs en danger dans leur famille. Ainsi, le juge des enfants exerce une fonction tutélaire. Il protège, il sanctionne tout à la fois. Cette approche globale des enfants vulnérables est aussi celle choisie par la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants, dite Convention de New York de 1989. Qui fait aujourd'hui partie de notre droit positif, puisque la Cour de cassation a reconnu que certains de ces articles étaient directement invocables devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Aujourd'hui, le regard porté sur l'enfance et l'adolescence a changé. Il tend à aborder de manière radicalement différente l'enfant selon qu'il sera considéré comme victime ou comme dangereux. Certes, l'enfant d'aujourd'hui n'est certainement plus celui de 45, mais la justice des mineurs, qui doit s'adapter aux exigences de son temps, doit faire face à cette tentation réductrice de séparation, qui nous ferait revenir au temps d'avant 45. Je vais commencer par évoquer les grands principes de la justice des mineurs, ceux qui sont issus de la théorie de défense sociale. Je vais ensuite vous expliquer en quoi ce texte est particulièrement souple et a su s'adapter aux évolutions du temps. Et enfin, je reprendrai les différentes accusations d'inadaptation pour conclure sur les perspectives que nous pouvons avoir pour demain. La rédaction d'origine de l'ordonnance de 45 comporte deux principes majeurs qui sont fondés sur la conviction qu'un mineur ne dispose pas de la même maturité qu'un adulte et que sa personnalité est en construction. Conviction de bon sens. Le premier principe est celui de la spécialisation des juridictions. Ça signifie que les enfants ne peuvent pas être jugés par les tribunaux de droit commun, les enfants qui commettent des actes de délinquance, mais relèvent uniquement du juge des enfants, du tribunal pour enfants ou de la cour d'assises des mineurs, selon la gravité des faits qui leur sont reprochés. Et les tribunaux pour enfants sont organisés de telle manière que chaque mineur puisse être suivi par son juge, celui du lieu de son domicile. Donc la compétence du juge n'est pas par priorité celle du lieu de commission de l'infraction, mais celle du lieu du domicile du mineur. Et c'est important parce que cela doit permettre une continuité de l'intervention à tous les stades d'une même procédure et une continuité de l'intervention par rapport à une situation de danger familial, par exemple. En 1945, un corps d'éducateurs a également été créé pour assurer la mise en œuvre des mesures prises par le juge des enfants et garantir cette continuité. Il s'agit de l'éducation surveillée, qui en 1990 est devenue la protection judiciaire de la jeunesse. Parce que l'enfant est dépendant de l'adulte et que sa personnalité est en construction, le second principe de la justice des mineurs exige que l'on prononce une mesure éducative par préférence à une peine d'emprisonnement ou d'amende. Alors, bien évidemment, une peine pourra être prononcée si la situation ou la personnalité du mineur l'exige, mais uniquement à partir de l'âge de 13 ans. Donc cette idée qu'on ne peut pas envoyer un mineur en prison est vraie pour les enfants de moins de 13 ans, mais fausse pour les enfants de plus de 13 ans. Jusqu'à sa majorité, un mineur bénéficiera en outre d'une atténuation de sa responsabilité, et ce qui signifie que la peine que l'on prononcera contre lui ne pourra pas dépasser la moitié du maximum légal encouru. Je vais prendre deux exemples. Le vol est puni par notre code pénal de 3 ans d'emprisonnement. Cela signifie qu'un mineur ne pourra pas être condamné à plus d'un an et demi d'emprisonnement. L'assassinat est puni de perpétuité. Cela signifie qu'on ne pourra pas condamner un mineur à plus de 20 ans, ça a été fixé à 20 ans, de réclusion criminelle pour assassinat. Et cela signifie également qu'une telle peine est tout à fait possible. En fait, cette combinaison d'éducation et de sanctions pénales permet d'appliquer un même texte à tous les enfants, depuis l'âge de discernement, qui est généralement évalué à 8 ou 9 ans, mais également aux adolescents jusqu'à leur majorité. Ce même texte peut être appliqué aux mineurs que l'on ne voit qu'une seule fois, ainsi qu'aux multirécidivistes, à ceux qui s'enlisent dans la délinquance. Ces principes ont récemment été élevés à valeur constitutionnelle. garantissant ainsi leur pérennité et les protégeant de toute évolution législative contraire. À côté des principes et des textes, certains constats tirés de l'expérience doivent également être rappelés. En premier lieu, la notion de temps. Elle est bien différente pour un adolescent et pour un adulte. Cela impose que la réponse judiciaire à un acte commis par un mineur soit suffisamment rapide pour être utile, pour avoir du sens. Mais il faut aussi garder à l'esprit que la précipitation à répondre est une source d'escalade et que l'éducation nécessite également du temps et de la patience. En second lieu, je voudrais dire qu'il ne sert à rien de vouloir s'occuper d'adolescents sans un engagement personnel fort auprès d'eux. Et je vais vous faire une confidence. Ce que M. le Président Damien m'a raconté tout à l'heure en aparté sur son rôle d'avocat m'a fait davantage penser à l'action d'un délégué à la liberté surveillée et à un éducateur engagé auprès des jeunes qu'à celui de quelqu'un qui assiste juridiquement un mineur devant le juge des enfants. Les enfants, les adolescents doivent pouvoir se confronter à des adultes solides qui tiennent dans la durée et qui ne cèdent ni au découragement ni à la violence. Cela concerne aussi bien les magistrats que les éducateurs et les avocats. Alors la souplesse de ce texte de l'ordonnance de 45. À l'image du Code civil de 1804 dont le contenu a pu évoluer sans remise en cause de son architecture, l'ordonnance de 45 a été réformée à maintes reprises, plus de 20 fois depuis 1945, mais toujours dans le respect des principes fondateurs. Elle est toujours en vigueur, elle a été constamment adaptée à la commande de l'époque, soit par des réformes, soit par l'évolution de méthodes pédagogiques. Alors, que ceux qui ont une connaissance des procédures me pardonnent maintenant, parce que je vais rappeler quelle est la structure d'un procès pénal pour les mineurs, parce que ça me paraît important que nous ayons tous la même information pour ceux qui n'en seraient pas spécialistes. Lorsqu'un mineur commet un acte de délinquance, il est poursuivi par le procureur de la République. Il est ensuite convoqué avec sa famille par le juge des enfants, qui lui désigne un avocat, et recueille des renseignements sur sa personnalité. Dans l'attente du jugement définitif sur les faits, des mesures provisoires d'éducation peuvent être prises, telles qu'un placement dans un centre éducatif, nous pourrons en reparler ultérieurement, une mesure de réparation ou l'intervention d'un éducateur à domicile. Lorsque la gravité des faits, l'âge et la personnalité du mineur le justifient, un contrôle judiciaire, qui est une mesure de sûreté que connaissent aussi les adultes, peut être décidé. Et à titre exceptionnel et sous certaines conditions, un mineur peut être placé en détention provisoire avant même d'être jugé. Dans une prison, on entend bien. Le juge des enfants en décidera ensuite, au vu de l'évolution du mineur pendant cette période probatoire, et c'est cette période qui est importante, selon quelle forme il y a lieu de le juger. Alors il pourra le juger en chambre du conseil, c'est-à-dire dans son bureau, en vue de prononcer une mesure éducative. Il pourra également le juger devant le tribunal pour enfants, qui seul peut prononcer des sanctions pénales, emprisonnement, amende ou travail d'intérêt général. Le juge des enfants et le tribunal se prononceront également, le cas échéant, sur la demande d'indemnisation présentée par la victime. Tout cela pour rappeler que le procès pénal du mineur est un procès pénal classique dans l'ensemble des intérêts qu'il cherche à protéger. Alors l'évolution dans le temps. Dans les années 70, on a vu naître la préoccupation de développer une pénologie propre aux mineurs. Le ministère de la Justice a voulu rompre avec l'enfermement, parce qu'il était source de violence. Et ainsi, les institutions publiques de l'éducation surveillée, les célèbres IPES, ont été progressivement fermées, et la dernière en 1979 par le ministre Alain Peyrefitte. À cette époque, l'intervention éducative fondée sur la contrainte est rejetée. Dès lors, l'incarcération des mineurs a considérablement augmenté. Les tribunaux pour enfants mettaient en prison des mineurs multirécidivistes ou qui refusaient l'intervention éducative. Dans un rapport remis au chef du gouvernement en 1976 par M. Jean-Louis Costa, qui a été le premier directeur de l'éducation surveillée, il est noté qu'entre 1956 et 1973, le nombre de mineurs incarcérés a été multiplié par 10 pour les mineurs de 16 à 18 ans et par 14 pour les mineurs de 13 à 16 ans. Les années 80, elles voient un approfondissement de la réflexion sur le sens, ce que peut être le travail éducatif, et une volonté de limiter le recours à la détention provisoire. C'est aussi le début de la politique de la ville, avec le rapport Bonne-Maison en 1982, qui fait de la justice des mineurs et de la prévention l'affaire de tous, et non plus de quelques spécialistes. Dès lors, de nouveaux acteurs interviennent en la matière, notamment des maires. Et cette ouverture sera d'une grande richesse, mais elle aura pourtant un certain nombre de revers. En effet, l'insuffisante définition des objectifs et la dispersion des crédits a opposé ces acteurs les uns aux autres, chacun estimant que l'autre ne remplissait pas toujours sa part du contrat entre la justice et les acteurs publics. Ainsi, Denis Salas, qui est maître de conférence à l'École nationale de la magistrature, a souligné en 2000 assez justement que violences urbaines et délinquance des mineurs n'étaient pas la même chose. Et les premières doivent appeler des réponses globales de politique publique, alors que les secondes relèvent du traitement individuel. Je crois que ce constat est toujours d'actualité 6 ans après. Dans les années 90, la demande sociale de reconnaître davantage de responsabilités aux mineurs se précise. C'est une nouvelle conception de leur responsabilité pénale qui préside à la création en 1993 d'une mesure un petit peu révolutionnaire dans le droit pénal des mineurs, la mesure de réparation. Elle est issue de la pratique et a été recommandée auparavant par les textes internationaux. Elle doit permettre aux mineurs, guidés par un éducateur, de réparer ne serait-ce que symboliquement le trouble créé par l'infraction et les dommages causés à la victime. Elle peut s'exercer directement auprès de la victime, mais aussi indirectement, par une activité au bénéfice de la société. C'est une véritable pédagogie de la responsabilité. Et elle permet, en fait, de dégager un nouvel équilibre de la réponse pénale entre les intérêts du mineur, les intérêts de la société et les intérêts de la victime. Par exemple, à l'égard d'un groupe de mineurs de 15 à 16 ans qui, récemment, ont mis le feu à un dépôt d'ordures derrière un magasin de leur quartier, je vous rassure, il n'y a pas eu de dégâts trop graves, une mesure de réparation a été ordonnée afin de leur permettre, en lien avec la municipalité, de participer à des travaux de décoration de leur cité. Nous pourrons réévoquer dans le débat ultérieurement ce type de mesure avec éventuellement d'autres exemples. Alors, les années 90 voient une autre évolution. Elles voient apparaître ce que la sociologue Anne-Vive Quince a nommé « la troisième voie ». Le traitement de la délinquance en temps réel, qui accélère la réponse judiciaire, est expérimenté à Bobigny sous l'impulsion du procureur Marc Moinard. Dans le cadre d'une politique dite de tolérance zéro, une réponse doit être apportée à chaque acte, le cas échéant dans le cadre d'alternatives aux poursuites décidées par le parquet, c'est-à-dire en amont de l'intervention du juge des enfants. Ainsi, la proportion des classements sans suite, tant décriée à l'égard des mineurs, a considérablement chuté. Cette pratique de justice des mineurs, en fait, par le parquet, constitue également une première brèche dans le principe de spécialisation des juges des enfants. En effet, c'est une véritable justice parallèle qui se développe avec sa propre gradation des réponses. Par exemple, à Bobigny, un tiers des faits commis par les mineurs sont traités directement par le parquet. Et lorsque le juge des enfants est enfin saisi, il est parfois un peu tard pour entamer un travail éducatif. Depuis la fin des années 90, la priorité a changé. L'accent est désormais porté par la loi sur la protection de la société et par le ministère de la Justice et ses services sur l'intégration des règles, au besoin par une forme de contrainte. Des centres éducatifs renforcés et des centres de placement immédiats voient le jour qui accueillent des mineurs en alternative à l'incarcération. Mais c'est surtout la loi du 9 septembre 2002, dite loi Perben 1, qui a signé l'évolution la plus importante. En premier lieu, elle renforce l'intervention de la contrainte dans l'acte éducatif. Le respect de mesures éducatives peut ainsi être imposé sous peine de sanctions pénales. Et des centres éducatifs fermés sont créés. Nous pourrons y revenir dans le cadre du débat ultérieurement. En second lieu, cette loi renforce le dispositif de jugement rapide. Toutefois, le nombre de peines d'emprisonnement ferme prononcées par les tribunaux n'a pas augmenté depuis 2002. Il a même légèrement baissé. Et peu à peu, depuis 2002, la sanction pénale, donc la peine d'emprisonnement, et son suivi deviennent la préoccupation première du législateur comme de l'administration, de la protection judiciaire de la jeunesse. On voit maintenant des éducateurs qui interviennent en prison, qui travaillent à demeure, je dirais. On voit également la création en 2002 d'établissements pénitentiaires pour mineurs dont les premiers vont ouvrir courant 2007. Et une loi de 2004 a confié au juge des enfants la compétence de d'assurer le suivi de mineurs condamnés à une peine d'emprisonnement. Enfin, le développement de mesures et de procédures applicables indifféremment aux majeurs et aux mineurs remettent progressivement en cause la spécificité de la justice des mineurs. C'est notamment le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou la loi relative à la récidive. L'attention portée sur la contrainte se retrouve également dans le budget de la protection judiciaire de la jeunesse. Son augmentation entre 2004 et 2006 a été tout entière absorbée par les centres éducatifs fermés, qui pourtant ne prennent en charge qu'une centaine des 80 000 mineurs poursuivis chaque année devant les juges des enfants. Enfin, j'en viens à la question qui nous intéresse tout particulièrement. La justice des mineurs est-elle adaptée à notre temps ? Alors aujourd'hui, un an après la crise qui a embrasé certaines banlieues, la justice des mineurs est mise en accusation. Elle serait inadaptée, notamment parce que les mineurs d'aujourd'hui n'auraient rien de commun avec ceux de 45. C'est non seulement le texte, mais aussi les pratiques judiciaires qui sont remises en cause. Alors je vais tenter d'aborder cette question à partir des principales critiques adressées à la justice des mineurs. La première, les mineurs d'aujourd'hui sont-ils différents de ceux de 1945 ? Alors, seraient-ils plus mûrs, davantage responsables de leurs actes, plus violents ? Est-ce que l'augmentation de la délinquance des mineurs montre une jeunesse dont le sens moral se serait dégradé et qui appellerait une répression accrue ? Au-delà de ces supposées mutations de la jeunesse, il existe des invariants chez les enfants. Un enfant ne s'éduque pas seul. Il doit être guidé par l'adulte dont il est dépendant. Il a besoin de s'opposer en grandissant. Sa maturité se construit progressivement, grâce au temps et surtout aux valeurs transmises par l'adulte et à la fermeté bienveillante dont il doit faire preuve pour que son autorité ne soit pas vécue comme arbitraire et injuste. Et la justice des mineurs a été conçue pour répondre à ces besoins. Alors, je ne reprendrai pas les controverses relatives à la fiabilité des statistiques et à leur corrélation avec l'activité de services de police dont les effectifs se sont accrus. Mais je dois reconnaître que le nombre de faits constatés a augmenté, notamment en ce qui concerne les vols avec violence. Toutefois, cette augmentation de la délinquance me semble davantage être la conséquence d'évolutions sociétales que d'un changement de structure de la jeunesse. Je m'explique. D'abord, nous vivons aujourd'hui dans une société bien plus compétitive qu'auparavant. Les plus faibles, qui sont surreprésentés parmi les mineurs délinquants, éprouvent des difficultés grandissantes à trouver leur place. À l'école comme dans le monde du travail. Trop d'enfants désertent l'école sans que l'institution scolaire n'ait les moyens de les rechercher ou n'ait les moyens de créer pour eux des réponses et des parcours adaptés. De même, le temps du plein emploi est révolu et les perspectives d'un jeune d'aujourd'hui, en particulier s'il vit dans un quartier repéré comme difficile ou s'il est issu de l'immigration, sont bien faibles. Et les quelques parcours d'excellence de jeunes particulièrement méritants demeurent des exceptions qui n'offrent pas de perspectives de masse. La Seine-Saint-Denis, où l'échec du traitement de la délinquance des mineurs est pointé, est particulièrement représentatif de cette situation, avec des taux de chômage qui battent tous les records dans certains endroits. Deuxième point, les structures familiales. Elles ont considérablement évolué et parfois perdu de cette solidité qui permet de retenir un adolescent en crise. Les ruptures familiales sont plus fréquentes, les familles monoparentales sont plus nombreuses, et la famille élargie n'est pas toujours présente pour accompagner les passages difficiles. Les familles issues de l'immigration, qui sont surreprésentées également dans ces quartiers dits difficiles, connaissent également des problèmes spécifiques d'adaptation, qui les éloignent parfois de leurs enfants plus vite acculturés. Que penser de ces enfants qui jouent le rôle d'interprète pour leurs parents lorsqu'ils les accompagnent dans leur contact avec les institutions ? Est-ce que l'autorité des parents n'est pas remise en cause ? Troisième point qui explique les changements sociétaux que nous connaissons aujourd'hui, c'est la mondialisation des échanges d'informations. On voit l'émergence d'une culture de la jeunesse qui dépasse largement notre horizon national et qui renforce d'autant plus l'emprise des pairs, l'emprise du quartier, diront certains, et qui fait concurrence directe à l'autorité familiale. De même, la violence de certaines images, véhiculées par Internet notamment, et le développement dans certaines cités de systèmes d'économie parallèles, ne font que renforcer cette situation et éloigner les adolescents du modèle proposé par les familles et par les institutions. Dans un tel contexte, les institutions ne sont plus perçues comme protectrices. C'est parfois le cas de l'école, mais c'est aussi et surtout le cas des forces de l'ordre. L'intervention des brigades anticriminalité s'est développée au détriment d'une police de proximité qui faisait que les commissariats locaux connaissaient la population. Des contrôles d'identité répétés, parfois nécessaires, sont vécus comme du harcèlement. Et la relation d'autorité de la police à l'égard des jeunes a parfois fait place, malheureusement, et tout le monde le déplore, à une situation de rivalité entre police et jeunesse, où chacun peut devenir l'ennemi de l'autre. Les comportements d'outrage et de rébellion des jeunes à l'égard des forces de l'ordre se multiplient tout naturellement dans un tel contexte. Et ils placent les policiers dans la situation particulièrement complexe et délicate d'être à la fois victimes de faits et chargés de les constater en vue de leur jugement. Enfin, l'effet de publicité donné à certains faits divers peut susciter une escalade, comme on l'a vu l'an dernier à l'occasion de la crise des banlieues. Je ne parle pas du rôle de la mission du journaliste de rendre compte de ce qui se passe en cas d'événement, mais je parle de la mise en valeur des premières pages, des premières images des journaux télévisés et des modes que cela est susceptible de créer. Alors, cette supposée différence entre les jeunes de 45 et ceux d'aujourd'hui traduit également un changement de regard sur la jeunesse. Au début du XXe siècle, on parlait d'enfance coupable. Rappelez-vous les propos d'Émile Garçon. En 1945, on parlait d'enfants inéduqués, ou déficients. Dans les années 70, on a vu dans les comportements délinquants un symptôme morbide, puis une manifestation de révolte. Avec la crise économique, dans les années 80, on a incriminé le chômage et cherché des solutions globales dans les politiques publiques. Plus récemment, la délinquance de groupe est apparue comme un phénomène lié à un manque de reconnaissance sociale et une crise de transmission des valeurs. Le sentiment d'insécurité d'adulte répond à un sentiment d'injustice des jeunes. L'enfant s'efface derrière le délinquant et l'on envisage la conduite à tenir qu'à partir du passage à l'acte et de la prévention de son renouvellement. Mais est-ce que l'on s'interroge encore sur notre capacité à ménager une place à nos enfants et à nos adolescents ? Deuxième question posée à la justice des mineurs. Est-ce que les mineurs bénéficient d'impunité ? Comme on l'a vu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'ordonnance de 45 permet de prononcer tout type de mesures éducatives et tout type de peines. Ce n'est donc pas le texte qui est en cause, mais l'absence de réponse suffisante aux actes commis. En premier lieu, je voudrais vous dire que l'immense majorité des faits commis n'est pas élucidée, permettant le développement d'un sentiment d'impunité. En 2005, par exemple, seul un tiers des actes de délinquance générale ont été élucidés. Et concernant la délinquance de voie publique, qui est à peu près l'opposé de la délinquance astucieuse dont l'orateur qui aurait dû venir aujourd'hui aurait dû vous parler, donc pour la délinquance de voie publique, c'est seulement 11% des faits qui sont élucidés. C'est-à-dire que 89% des faits de délinquance de voie publique, de vol de sac à main, de vol de téléphone portable, de vol dans les voitures, des cambriolages, ne sont pas élucidés. En second lieu, toujours sur l'impunité, la politique de tolérance zéro et la troisième voie que j'ai évoquée tout à l'heure sont massivement utilisées pour les mineurs, ce qui fait que l'on aboutit à un taux de réponse pénale plus important pour les mineurs que pour les majeurs. 84,6% des faits commis par les mineurs font l'objet d'une réponse de la justice en 2005 contre 77% pour les majeurs. Le reste est classé sans suite en raison d'un préjudice trop faible ou d'un caractère insignifiant. Enfin, ce sentiment d'impunité dont bénéficieraient les jeunes est également alimenté par de fausses croyances. La première est celle qu'un mineur ne risquerait rien, que vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président. Et la seconde est celle que seule la prison serait une réponse pertinente à la délinquance. Dans un tel contexte, évidemment, toute tentative de comprendre et d'analyser le phénomène de la délinquance des mineurs est vite perçue comme et taxée de culture de l'excuse. Alors, troisième question qui se pose à la justice des mineurs. Est-elle trop lente ? Alors, la justice des mineurs a certainement des progrès importants à réaliser dans l'organisation de réponses rapides aux actes commis par les mineurs. Des efforts ont déjà été fournis avec le développement de procédures rapides et les dernières réformes. Toutefois, je voudrais dire qu'elle n'y parviendra pas si elle n'est pas dotée de moyens matériels et humains supplémentaires, qui permettent, par exemple, simplement d'organiser davantage d'audiences. Si on demande aux juges des enfants une nouvelle accélération des procédures sans leur donner de moyens de répondre à cette commande, on aboutira à un traitement précipité et au lieu de juger 5 affaires en une demi-journée, on devra en juger 15, ce qui ne permettra plus de prendre le temps de l'échange et de la réflexion sur la mesure la mieux adaptée. Quatrième question, la justice des mineurs est-elle insuffisamment sévère ? La demande de sévérité est en fait fondée sur l'idée que l'acte délinquant résulte d'un choix individuel. Or, ce choix ne peut pas être l'unique explication de comportement délinquant, surtout s'agissant de mineurs. Si la sévérité de la réponse judiciaire pouvait suffire à améliorer la situation, le taux de récidive ne serait pas aussi important qu'il l'est après un passage en prison. Et par ailleurs, je voudrais dire que la fermeté sans bienveillance est vécue, et pas seulement par les mineurs, comme persécutrice. Elle ne suscite pas la confiance dans les institutions et peut rapidement aboutir à des logiques d'escalade. Le traitement de la délinquance, pour être efficace, doit être perçu comme juste. En réalité, c'est parce qu'il sait que le juge qui va prononcer une peine d'emprisonnement contre lui est également chargé de sa protection, que le mineur peut tirer parti de la sanction qui sera prononcée. Cinquième question, la justice des mineurs peut-elle enrayer l'augmentation de la délinquance des mineurs ? Alors, je crois qu'il existe un décalage important entre les attentes à l'égard de la justice et les limites de notre institution judiciaire. Cette institution judiciaire ne peut, selon l'expression récente de Renaud, cette fois-ci Chazal de Mauriac, premier président de la Cour d'appel de Paris, elle ne peut être la voiture balai de tout ce qui a été oublié en amont, qu'il s'agisse de soutien social, d'intégration scolaire ou de soins physiques ou mentaux. Par ailleurs, l'élaboration de réponses aux actes de délinquance et aux jeunes qui les commettent ne peut faire l'économie d'une approche individualisée qui s'interroge sur la nature des difficultés qu'ils manifestent et qui s'interroge également sur la réponse la mieux adaptée. Mais les mesures éducatives sont-elles suffisantes ? Force est de constater que le retard de mise en œuvre de certaines mesures les prive de sens et prive la réponse judiciaire de sens. On voit fréquemment revenir devant le tribunal pour enfants des mineurs pour lesquels une mesure éducative a été prononcée, mais elle n'a pas été mise en œuvre. On voit se développer des listes d'attente auprès des services éducatifs pour la prise en charge de mesures décidées par le juge des enfants. C'est l'illustration d'un dysfonctionnement. Parfois, il faut attendre 5 mois, 6 mois, 8 mois avant qu'une mesure prononcée par un juge à l'égard d'un mineur qui a besoin d'un encadrement soit prise en compte. Par ailleurs, il convient aussi de s'interroger sur le rythme de l'intervention des éducateurs au domicile des mineurs. Elle se limite malheureusement, et bien souvent, à une rencontre par semaine dans le meilleur des cas. Ça ne peut pas toujours suffire à ramener un adolescent dans un processus de socialisation, surtout lorsque la famille est trop en difficulté pour relayer l'intervention de l'éducateur, surtout lorsque le mineur a trouvé dans une économie parallèle l'attrait d'une vie économiquement plus facile et surtout l'admiration de ses pairs. De même pour les placements. Un placement qui n'est compris par un mineur que comme une mise à l'écart ne peut pas susciter cet effort de transformation qui est nécessaire pour sortir d'un processus de délinquance. Il peut en outre être source de rejet de toute intervention éducative ultérieure. C'est la qualité de la prise en charge, la compétence et l'engagement des professionnels, la préparation de l'accueil avec l'intéressé et l'adhésion également de la famille à ce projet qui sont des gages de réussite. Alors certes, ce n'est pas toujours possible d'obtenir tout cela, mais il est de la responsabilité des professionnels, qu'il s'agisse des juges ou des éducateurs, et avec le soutien bienveillant des avocats, de faire l'effort d'en créer les conditions. On remarque aussi que les adolescents les plus en difficulté sont ceux qui auraient besoin de prise en charge particulièrement soignée. Or, c'est pour eux qu'on constate une multiplication de mesures successives, avec de grandes difficultés pour trouver un établissement qui puisse les accueillir, qui accepte tout simplement de les prendre en charge, au point qu'on évoque parfois ce qu'on appelle le syndrome de la patate chaude. Excusez l'expression, mais comme le disait Monsieur le Président tout à l'heure, la prison ne refuse jamais un mineur. Un établissement pourra toujours répondre « nous n'avons plus de place » ou alors « nous sommes déjà en difficulté, si vous nous confiez ce mineur-là, la prise en charge, notre établissement ne pourra pas le supporter et la prise en charge de tous les autres mineurs pourra être compromise ». Vous voyez dans ce cas à quelles difficultés nous sommes confrontés. L'action éducative nécessite donc du temps, des moyens humains et financiers et une formation adaptée. Tout cela reste à développer. Je voudrais terminer par deux mots sur la prison, qui est une question qui ne doit pas être négligée. Un certain nombre d'adolescents occupent actuellement les quartiers mineurs des maisons d'arrêt, alors qu'ils ne devraient pas s'y trouver. Je ne dis pas que c'est le cas de tous, mais d'un certain nombre d'entre eux. Certains souffrent de troubles psychiatriques, mais ne peuvent pas bénéficier de soins à défaut de structure. Pour d'autres, il a été impossible de trouver un établissement qui puisse les accueillir de manière adaptée. Et à défaut d'alternative, eh bien, ça peut être la détention provisoire. Dans de telles situations, la prison est une mauvaise réponse à de vraies difficultés. Lorsque l'emprisonnement est nécessaire, et il l'est parfois, la société doit à ces mineurs d'en faire un temps qui ne soit pas qu'une exclusion, mais qui est aussi une forme d'utilité. La prison doit pouvoir offrir des conditions humaines et des perspectives de réinsertion. Elle doit aussi permettre le maintien de relations avec la famille. À défaut, elle ne pourra susciter que révolte et apprentissage de la criminalité. La création prochaine d'établissements pénitentiaires pour mineurs, prévue par une loi de 2002, où travailleront des éducateurs et des surveillants, où les soins et la scolarité seront prévus de manière particulièrement soignée, cette création devrait permettre d'améliorer les conditions d'incarcération. Mais il est toutefois souhaitable, et je tiens à le dire, que le financement de ces établissements ne vienne pas grever les autres services, les services de la protection judiciaire de la jeunesse. Sinon, c'est le choix de la privation de liberté qui aura prévalu sur l'éducation, et ce serait dommage. Alors, quelle perspective pour demain ? Il est temps certainement de développer des outils nouveaux peut-être, pour sortir de la crise. Pour faire référence à la période récente, je voudrais dire que l'invective n'améliorera pas la situation. La désignation d'un bouc émissaire fait l'économie d'une réflexion sur la complexité de la question et monte les institutions les unes contre les autres, ce qui n'est jamais bon. Or, c'est la concertation qui doit être développée pour produire de la cohérence, des liens réguliers, une bonne connaissance de l'action de ceux avec lesquels on travaille, qu'il s'agisse, pour les juges des enfants, des maires, des policiers, des éducateurs, des avocats, des services sociaux et de tous les services qui interviennent sur les quartiers, même s'ils ne sont pas en relation directe avec la justice. Une bonne connaissance de ces partenaires facilite la détermination d'objectifs communs et d'actions concertées. Par ailleurs, il paraît important de développer une réflexion sur la pédagogie et de déterminer ce que l'on veut transmettre aux adolescents qui bénéficient d'interventions éducatives. La pédagogie dite du « faire avec », développée par l'association LENI, dans certains centres éducatifs renforcés et maintenant dans certains centres éducatifs fermés, où on voit l'éducateur accompagner physiquement un jeune dans ses apprentissages et partager le quotidien de ses efforts, est une voie intéressante. Le développement également des libertés réelles des jeunes, c'est-à-dire leur capacité à devenir autonome, comme le suggère Dominique Youf, qui a écrit plusieurs ouvrages sur les droits de l'enfant, semble également important pour des jeunes, parce que toutes les enquêtes montrent que les jeunes pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse et qui connaissent la justice des mineurs sont moins dotés que les autres. Ils ont une enquête notamment de l'INSERM de 2005 concernant la santé des jeunes pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse montre que on trouve très fréquemment une présence de précarité sociale, d'échecs scolaires, de pauvreté et de déstructuration familiale. Enfin, préalablement à toute réforme, il me semble indispensable d'exiger une évaluation précise et indépendante de la situation et des résultats des politiques antérieures. Un projet de loi est actuellement en cours de discussion devant notre Parlement, présenté par notre ministre de l'Intérieur. Il a été présenté sans qu'aucune évaluation des réformes précédentes n'ait été réalisée. En outre, je voudrais signaler que ce texte constitue une rupture dans la manière d'envisager la délinquance des mineurs et les réponses à y apporter. Il considère les mineurs comme des acteurs rationnels, totalement responsables de leurs choix, en mesure de négocier une peine avec le procureur de la République dans le cadre d'une composition pénale. Il organise aussi la comparution immédiate pour les mineurs, dont on sait que pour les majeurs, elle aboutit à une hausse des incarcérations. Ce qui est, à mon sens, une confusion entre suivi précoce et précipitation à condamner. Et c'est oublier, et ce sera ma conclusion, que pour que des adolescents intègrent la loi, ils doivent d'abord se l'approprier. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la communication devant l'Académie des sciences morales et politiques de Madame Muriel Aiglin, vice-présidente du tribunal de grande instance de Bobigny, consacrée à la justice pénale des mineurs.